Диск 8. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит два раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего АФ и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Pour ou contre la gratuité des musées?
Speaker A.
Je trouve que la culture doit être accessible à tous. Alors, tous les musées devraient être gratuits pour tous. Les collections permanentes, mais aussi les expositions temporaires, comme c'est le cas en Angleterre. Ou comme aux États-Unis. Un musée est gratuit à tous, au moins un jour de la semaine. La gratuité peut ainsi suffire à démocratiser les fréquentations des musées à Paris. On regrette en France l'augmentation des inégalités sociales. C'est une façon agréable de les compenser.
Speaker B.
Je ne trouve pas que les musées parisiens gratuits soient si nombreux. Et je voudrais qu'il y en ait plus. Peut-être faudrait-il trouver un juste équilibre entre gratuité et prix d'entrée trop cher. Par exemple, une visite d'exposition avec un guide audio en plus, on ne peut pas faire cela plusieurs fois par mois quand on a peu de moyens. Pourquoi les lycéens et les collégiens ne pourraient-ils pas bénéficier des tarifs réduits, comme les étudiants, dans les musées? Ce serait juste, à mon avis.
Speaker C.
Je trouve qu'il ne faut pas obliger les gens à fréquenter les musées. C'est injuste de vouloir à tout prix former le public pour l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. Les jeunes qui sont intéressés par l'art trouvent toujours le moyen de payer leur entrée. Par contre, on perd beaucoup de temps pour accéder à la billetterie. Je suis sûr que c'est par là qu'il faut commencer pour faire venir plus de jeunes. Entre deux cours, il leur est difficile de faire la queue une heure pour entrer dans un musée.
Speaker D.
Bien sûr qu'il faut maintenir la gratuité, au moins des collections permanentes. Mais la placer un dimanche à part mois ne sert pas à grand-chose. On est obligé d'attendre pendant des heures pour avoir le soi-disant privilège de pénétrer en masse dans un musée. Je signale qu'autrefois, pas si longtemps quand même, l'entrée au musée du Louvre était gratuite tous les dimanches et j'y ai ainsi passé mes plus belles heures. Je veux dire que ça, c'était une vraie politique culturelle.
Speaker E.
À mon avis, supprimer la gratuité des musées serait une erreur. Il serait sans doute plus judicieux de demander à l'Éducation nationale d'inciter dès leur plus jeune âge les élèves à se rendre plus souvent à la bibliothèque ainsi qu'au musée et aux expositions et de leur donner de bonnes habitudes. J'emmène ma fille au musée depuis l'âge de 5 ans parce que c'est gratuit. Maintenant qu'elle a 10 ans, elle me demande d'elle-même à visiter certaines expositions, même payantes.
Speaker F.
Je suis persuadée que c'est une erreur de penser que la gratuité des musées incite à la diversification des publics et à la démocratisation de la culture. Pour beaucoup de personnes, la gratuité implique l'idée que la culture, l'immatériel, n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que les gens viennent de milieux modestes qu'ils n'accordent pas de valeur à leurs loisirs et aux activités culturelles. À mon avis, cela diminue la valeur de l'art quand on dit aux gens « Allez-y, c'est gratuit !»
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Pour ou contre la gratuité des musées?
Speaker A.
Je trouve que la culture doit être accessible à tous. Alors, tous les musées devraient être gratuits pour tous. Les collections permanentes, mais aussi les expositions temporaires, comme c'est le cas en Angleterre. Ou comme aux États-Unis, un musée est gratuit à tous au moins un jour de la semaine. La gratuité peut ainsi suffire à démocratiser les fréquentations des musées à Paris. On regrette en France l'augmentation des inégalités sociales, c'est une façon agréable de les compenser.
Speaker B.
Je ne trouve pas que les musées parisiens gratuits soient si nombreux. Et je voudrais qu'il y en ait plus. Peut-être faudrait-il trouver un juste équilibre entre gratuité et prix d'entrée trop cher. Par exemple, une visite d'exposition avec un guide audio en plus, on ne peut pas faire cela plusieurs fois par mois quand on a peu de moyens. Pourquoi les lycéens et les collégiens ne pourraient-ils pas bénéficier des tarifs réduits, comme les étudiants, dans les musées? Ce serait juste, à mon avis.
Speaker C.
Je trouve qu'il ne faut pas obliger les gens à fréquenter les musées. C'est injuste de vouloir à tout prix former le public pour l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. Les jeunes, qui sont intéressés par l'art, trouvent toujours le moyen de payer leur entrée. Par contre, on perd beaucoup de temps pour accéder à la billetterie. Je suis sûr que c'est par là qu'il faut commencer pour faire venir plus de jeunes. Entre deux cours, il leur est difficile de faire la queue une heure pour entrer dans un musée.
Speaker D.
Bien sûr qu'il faut maintenir la gratuité, au moins des collections permanentes. Mais la placer un dimanche à part mois ne sert pas à grand-chose. On est obligé d'attendre pendant des heures pour avoir le soi-disant privilège de pénétrer en masse dans un musée. Je signale qu'autrefois, pas si longtemps quand même, l'entrée au musée du Louvre était gratuite tous les dimanches et j'y ai ainsi passé mes plus belles heures. Je veux dire que ça, c'était une vraie politique culturelle.
Speaker E.
À mon avis, supprimer la gratuité des musées serait une erreur. Il serait sans doute plus judicieux de demander à l'Éducation nationale d'inciter dès leur plus jeune âge les élèves à se rendre plus souvent à la bibliothèque ainsi qu'au musée et aux expositions et de leur donner de bonnes habitudes. J'emmène ma fille au musée depuis l'âge de 5 ans parce que c'est gratuit. Maintenant qu'elle a 10 ans, elle me demande d'elle-même à visiter certaines expositions, même payantes.
Speaker F.
Je suis persuadée que c'est une erreur de penser que la gratuité des musées incite à la diversification des publics et à la démocratisation de la culture. Pour beaucoup de personnes, la gratuité implique l'idée que la culture, l'immatériel, n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que les gens viennent de milieux modestes qu'ils n'accordent pas de valeur à leurs loisirs et aux activités culturelles. À mon avis, cela diminue la valeur de l'art quand on dit aux gens « Allez-y, c'est gratuit !»
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Ж соответствуют содержанию текста 1. Вре, какие не соответствуют 2. Фу и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
On va faire le journal du lycée.
Salut Marion. Dis donc, on ne se voit plus souvent. Qu'est-ce que tu deviens?
Salut Robert. Je crois que si, on se voit. Je te vois passer sans regarder à droite ni à gauche. Tu es complètement dans les nuages.
Oh, excuse-moi. C'est vrai, j'ai plein de choses à faire ces derniers temps. Tu sais, je viens d'être nommé rédacteur du journal de notre lycée. Alors, il faut que je trouve quelques élèves qui voudraient coopérer, écrire des articles par exemple. Cela t'intéresse?
Oh, félicitations d'abord! Oui, ça m'intéresse beaucoup, à vrai dire. C'est une idée géniale! J'aime bien écrire et j'ai toujours apprécié notre journal. Mais dis-moi, quelle sorte d'article voudrais-tu dans ce journal? Et combien d'articles par mois comptes-tu recevoir?
Chaque mois, nous demandons un article d'une demi-page de chaque journaliste. Notre sujet favori, c'est la vie à notre lycée. À propos de quel événement ou problème ici à notre lycée préfères-tu écrire?
Comme je suis assez sportive, j'aimerais bien écrire des articles au sujet de notre équipe de foot. Cette équipe est la meilleure de notre ligue cette année. Et on espère qu'on se qualifiera pour le championnat à la fin de la saison.
Bon, de temps en temps, il faut avoir des articles qui abordent la vie contemporaine, y compris la politique, le cinéma, l'environnement, etc. Lequel de ces sujets te dit quelque chose?
Je dirais que ma préférence est le cinéma. J'y vais tous les week-ends avec des copains. J'adore les films de toutes sortes. Mais les films d'action sont mes favoris. Je pourrais écrire des critiques d'un bon nombre de films pendant l'année.
Bien, nous avons besoin de nous réunir pour bien coordonner nos efforts pour ce journal. Quel serait le meilleur jour pour les réunions?
Malheureusement, avec tous mes cours et mon travail, je n'ai pas beaucoup de temps libre pendant la semaine. Je n'ai qu'un seul jour par semaine où je peux t'aider avec le journal. Généralement, je suis libre le mardi, juste après les classes, jusqu'à 6 heures du soir.
D'accord. Je suis sûr que ta participation sera d'un grand soutien au journal. On en reparlera la semaine prochaine, pendant la première réunion de notre rédaction, d'accord?
Oui, ce sera avec plaisir.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
On va faire le journal du lycée.
Salut Marion. Dis donc, on ne se voit plus souvent. Qu'est-ce que tu deviens?
Salut Robert. Je crois que si, on se voit. Je te vois passer sans regarder à droite ni à gauche. Tu es complètement dans les nuages.
Oh, excuse-moi. C'est vrai, j'ai plein de choses à faire ces derniers temps. Tu sais, je viens d'être nommé rédacteur du journal de notre lycée. Alors, il faut que je trouve quelques élèves qui voudraient coopérer, écrire des articles par exemple. Cela t'intéresse ?
Oh, félicitations d'abord ! Oui, ça m'intéresse beaucoup, à vrai dire. C'est une idée géniale. J'aime bien écrire et j'ai toujours apprécié notre journal. Mais dis-moi, quelle sorte d'article voudrais-tu dans ce journal ? Et combien d'articles par mois comptes-tu recevoir ?
Chaque mois, nous demandons un article d'une demi-page de chaque journaliste. Notre sujet favori, c'est la vie à notre lycée. À propos de quel événement ou problème ici à notre lycée préfères-tu écrire ?
Comme je suis assez sportive, j'aimerais bien écrire des articles au sujet de notre équipe de foot. Cette équipe est la meilleure de notre ligue cette année. Et on espère qu'on se qualifiera pour le championnat à la fin de la saison.
Bon, de temps en temps, il faut avoir des articles qui abordent la vie contemporaine, y compris la politique, le cinéma, l'environnement, etc. Lequel de ces sujets te dit quelque chose ?
Je dirais que ma préférence est le cinéma. J'y vais tous les week-ends avec des copains. J'adore les films de toutes sortes. Mais les films d'action sont mes favoris. Je pourrais écrire des critiques d'un bon nombre de films pendant l'année.
Bien, nous avons besoin de nous réunir pour bien coordonner nos efforts pour ce journal. Quel serait le meilleur jour pour les réunions ?
Malheureusement, avec tous mes cours et mon travail, je n'ai pas beaucoup de temps libre pendant la semaine. Je n'ai qu'un seul jour par semaine où je peux t'aider avec le journal. Généralement, je suis libre le mardi, juste après les classes, jusqu'à 6h du soir.
D'accord. Je suis sûr que ta participation sera d'un grand soutien au journal. On en reparlera la semaine prochaine, pendant la première réunion de notre rédaction, d'accord ?
Oui, ce sera avec plaisir.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Art de rédiger un bon polar.
Plus réaliste que le précédent, plus féministe aussi. Quand sort La Recluse, le nouveau roman de Fanny Rousseau est palpitant. Face à cette femme au charme et à la timidité à peine dissimulée derrière son succès fou, on éprouve le sentiment étrange et familier de la connaître. Est-ce parce qu'on aime depuis si longtemps les héros géniaux de sa brigade ? Dans « Quand sort la recluse », le commissaire Adamsberg est confronté à une drôle de créature en guise d'assassin, une recluse, araignée qui multiplie les victimes. Où avez-vous rencontré la recluse, cette araignée bizarre ?
Elle vient de ma vie précédente d'archéologue. Les animaux, je les connais, bien que je ne sois pas un zoologue. Après, pourquoi cette araignée ? Je ne sais pas. C'est souvent comme ça que ça se passe Un sujet s'impose, s'installe, s'accroche. Et comme Robespierre dans mon livre précédent, les temps glaciaires, la recluse n'a pas voulu s'en aller.
L'archéologie ne vous manque pas ?
Ce sont les chantiers qui me manquent. Le plaisir d'un autre monde que l'austérité de l'archéologie. C'est ça qui m'a plu dans l'écriture. Au début, je pensais n'écrire qu'un livre. Les chemins de la peste, c'est mon premier. Récemment, j'ai réalisé que j'étais très intéressée par les problèmes de résolution. Le but d'un roman policier n'est pas d'apprendre le plus d'informations, mais de résoudre un problème. L'affaire Battisti, par exemple. J'ai cherché, fouillé la balistique. Je pensais à d'autres erreurs historiques. Parfois, c'est lourd, long.
Comment travaillez-vous ? Combien de temps pour écrire votre dernier livre ?
Je travaille la nuit. Ce livre-là, c'est un mois d'écriture, 6 mois de correction. Quand me vient une idée, ce n'est pas un choix. Parmi les dizaines d'idées qui me traversent l'esprit en m'endormant, il y en a qui partent à la poubelle et d'autres qui restent. C'est un combat de 3 mois entre elle et moi.
Le commissaire Adamsberg, votre personnage principal, vous ne vous en lassez pas ? Ce n'est pas votre double ou votre modèle ?
Mais ce n'est pas du tout moi. Je ne suis pas dans les nuages. Moi, je suis terrestre à mort. C'est précisément ce que j'aime chez Adamsberg. Il est le contraire de moi. Il me calme car il n'a pas peur. Il prend les choses avec une sérénité que je n'ai pas.
On vous sent assez pessimiste sur les temps présents et à venir.
Je regarde beaucoup l'actualité, mais je ne participe pas à toutes les pétitions sur Internet, sur l'environnement notamment. Pourtant, l'activité de la Fondation Hulot me préoccupe. Je n'ai jamais balancé un message politique dans un roman policier. La seule chose que j'ai faite, c'est un texte, en 2008, à la demande des Verts. Nous y sommes. À titre individuel, on peut faire 2 ou 3 choses. À force d'acheter bio, par exemple, ça arrive dans les supermarchés. Alors, j'essaie d'acheter uniquement bio.
Connaissez-vous votre histoire avant de l'écrire ?
Je suis obligée de savoir qui est l'assassin. Le développement de l'intrigue, j'aimerais bien, mais non, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ce qui est important, c'est l'atmosphère. Par exemple, je fais attention aux saisons, à la météo. Chez Simenon, il pleut tellement, il fait si humide, que quand on le lit beaucoup, à la fin, il faut prendre des antibiotiques. Enfin, très important aussi, ne surtout pas mettre de message. Le polar n'est pas le lieu pour ça.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Art de rédiger un bon polar.
Plus réaliste que le précédent, plus féministe aussi. Quand sort La recluse, le nouveau roman de Fanny Rousseau est palpitant. Face à cette femme au charme et à la timidité à peine dissimulée derrière son succès fou, on éprouve le sentiment étrange et familier de la connaître. Est-ce parce qu'on aime depuis si longtemps les héros géniaux de sa brigade ? Dans « Quand sort la recluse », le commissaire Adamsberg est confronté à une drôle de créature en guise d'assassin, une recluse, araignée qui multiplie les victimes. Où avez-vous rencontré la recluse, cette araignée bizarre ?
Elle vient de ma vie précédente d'archéologue. Les animaux, je les connais, bien que je ne sois pas un zoologue. Après, pourquoi cette araignée ? Je ne sais pas. C'est souvent comme ça que ça se passe. Un sujet s'impose, s'installe, s'accroche. Et comme Robespierre dans mon livre précédent, Les temps glaciaires, la recluse n'a pas voulu s'en aller.
L'archéologie ne vous manque pas ?
Ce sont les chantiers qui me manquent. le plaisir d'un autre monde que l'austérité de l'archéologie. C'est ça qui m'a plu dans l'écriture. Au début, je pensais n'écrire qu'un livre. Les chemins de la peste, c'est mon premier. Récemment, j'ai réalisé que j'étais très intéressée par les problèmes de résolution. Le but d'un roman policier n'est pas d'apprendre le plus d'informations, mais de résoudre un problème. L'affaire Battisti, par exemple. J'ai cherché, fouillé la balistique. Je pensais à d'autres erreurs historiques. Parfois, c'est lourd, long.
Comment travaillez-vous? Combien de temps pour écrire votre dernier livre?
Je travaille la nuit. Ce livre-là, c'est un mois d'écriture, 6 mois de correction. Quand me vient une idée, ce n'est pas un choix. Parmi les dizaines d'idées qui me traversent l'esprit en m'endormant, il y en a qui partent à la poubelle et d'autres qui restent. C'est un combat de 3 mois entre elle et moi.
Le commissaire Adamsberg, votre personnage principal, vous ne vous en lassez pas? Ce n'est pas votre double ou votre modèle?
Mais ce n'est pas du tout moi. Je ne suis pas dans les nuages. Moi, je suis terrestre à mort. C'est précisément ce que j'aime chez Adamsberg. Il est le contraire de moi. Il me calme car il n'a pas peur. Il prend les choses avec une sérénité que je n'ai pas.
On vous sent assez pessimiste sur les temps présents et à venir.
Je regarde beaucoup l'actualité, mais je ne participe pas à toutes les pétitions sur Internet, sur l'environnement notamment. Pourtant, l'activité de la Fondation Hulot me préoccupe. Je n'ai jamais balancé un message politique dans un roman policier. La seule chose que j'ai faite, c'est un texte, en 2008, à la demande des Verts. Nous y sommes. À titre individuel, on peut faire 2 ou 3 choses. À force d'acheter bio, par exemple, ça arrive dans les supermarchés. Alors, j'essaie d'acheter uniquement bio.
Connaissez-vous votre histoire avant de l'écrire?
Je suis obligée de savoir qui est l'assassin. Le développement de l'intrigue, j'aimerais bien, mais non, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ce qui est important, c'est l'atmosphère. Par exemple, je fais attention aux saisons, à la météo. Chez Simenon, il pleut tellement, il fait si humide, que quand on le lit beaucoup, à la fin, il faut prendre des antibiotiques. Enfin, très important aussi, ne surtout pas mettre de message. Le polar n'est pas le lieu pour ça.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.